Anthony Méret, Les diverses façons d'aimer les livres. Le petit travail bibliographique où nous allons essayer d'expliquer certains goûts particuliers, certaines préférences, certaines délicatesses de l'esprit, certaines variétés de l'amour des livres, n'a nullement pour but de justifier la passion d'élite qui nous pousse à rechercher ces précieux témoins des accroissements de l'âme humaine à travers les générations. L'amour des livres, dont les alléchements variés à l'infini se rattachent à toutes les glorieuses activités de la pensée, n'a nul besoin d'être justifié, c'est glorifié qu'il faut dire, quand on réfléchit qu'aucun art, aucune science, aucune forme de protestation railleuse ou grave, réaliste ou mystique, battant en brèche l'ignorance et la sottise, n'échappe aux rayons de nos bibliothèques. Grâce aux livres, le bibliophile traverse à son gré les mers et les temps. Il pénètre sans crainte d'y être coudoyé dans les foules de toutes les époques et s'y choisit librement ses guides dans le nombre des esprits supérieurs qui lui ont légué les préoccupations de leurs contemporains. La masse n'assiste qu'à cette partie du grand drame terrestre qui se joue devant ses yeux. Pour le bibliophile, l'action se déroule entière depuis le lever du rideau dans ses moindres épisodes historiques. L'enchantement des actes qui ont précédé l'heure moderne lui fait comprendre d'une façon plus nette le sens de la scène incomplète dont le hasard l'a fait acteur. Là est le secret de cet appétit des livres qui affame les intelligences d'élite dont les rangs deviennent chaque jour plus serrés et plus nombreux. Cette passion a d'ailleurs mille manières d'envahir ceux qui passent à la portée de son influence. Aucune autre n'offre à ses adeptes un champ aussi vaste et des objets aussi merveilleusement variés. Tous ceux qui aiment ces glorieux trophées des siècles n'ont pas à un même degré le désir de surprendre la pensée de nos pères à sa source. Le goût du bibliophile a de nombreuses nuances tournant toutes au respect de ces vénérables épaves de la pensée. On peut classer les bibliophiles en deux grandes catégories. Ceux qui jouissent de la substance des livres, qui les traquent pour en extraire le contenu et s'imprégner de leur esprit, et ceux qui, les saisissant au passage pour s'en faire les conservateurs, en contemplant amoureusement la forme, les restaurent, les revêtent de pourpre et d'or, et les sauve des profanations du vulgaire. Dans la première classe de ce vaste culte, on aime le livre pour ce qu'il contient. On le recueille sous toutes ses formes et dans l'état où il se présente. Ces fervents instigateurs ne jetteront pas avec mépris le volume désiré parce que les vers l'ont troué et dentelé. Ils ne s'offusqueront pas trop des taches d'encre et de cire, des annotations oiseuses, des mutilations de marge, ni des mouchetures rougeâtres produites sur le texte par l'humidité. La bonne condition est pour eux un point secondaire. Souvent même, ils béniront l'accident qui a fait dédaigner une œuvre rare de l'opulent accapareur pour la jeter entre leurs mains. Dans les rangs de ce groupe, les différences de goût portent plus sur le fond que sur la forme. Certains d'entre eux recherchent spécialement les œuvres d'une langue déterminée, d'autres sont en quête de celles produites dans telle ou telle spécialité d'étude. Ceux-ci guettent les chroniques à légendes, les mémoires chaudement imprégnées de couleurs locales, les compilations pittoresques, les commentaires historiques semés de savoureuses indiscrétions. Ceux-là s'attachent aux travaux des philosophes, aux poétiques rêveries des mystiques, aux hardiesses des penseurs prime sautier. D'autres récoltent les premiers efforts de la science sous leurs formes étranges et empiriques, les recueils d'alchimie et d'astrologie, les cosmographies aux détails fabuleux, les histoires naturelles et surnaturelles, les discussions pour ou contre la sorcellerie et la démonomanie. Aux uns, il faut des poètes et des conteurs, aux autres, des satiriques et des pamphlétaires, ou des hérésiarques avoués, heurtant audacieusement au péril de leur tête les idées de leur temps. Les bibliophiles de cet ordre ont sans doute un grand bonheur à posséder de beaux livres purs du texte, grandes marges, riches de reliures et élégants de format. Mais ce n'est pas le but principal de leur visée. Quand ils ne peuvent l'atteindre, ils s'en consolent, et leur joie en souffre un peu. Monsieur Quatremère, malgré la rare richesse de son immense collection, appartenait à cette grande variété. Ce qu'a dévoré de feuilles imprimées ce gargantua intellectuel est inimaginable. En fait de livres, tout ce qui était bon intrinsèquement, beau ou laid de forme, faisait son affaire, quitte à échanger plus tard l'ouvrage imparfait contre le même, s'il passait à sa portée dans un meilleur état. L'illustre savant guettait les catalogues et écrémait les quais. Dans son immense bibliothèque, le bouquin incomplet, piqué, sans titre, émargé, vêtu de guenilles, coudoyait les gothiques sans tache du XVe siècle et les splendides manuscrits de l'Orient. Dans la seconde classe des bibliophiles, celle où l'on approfondit moins le texte, où l'on est plus particulièrement conservateur, les goûts sont bien autrement difficiles à contenter. Là se rencontrent les plus curieux groupes de collectionneurs et les plus pittoresques à étudier. Il faut à ces derniers des exemplaires irréprochables, demeurés vierges de toute souillure dans leur reliure originelle, ou tout au moins des volumes qui puissent se purifier du contact des lecteurs peu soigneux et rentrer avec honneur dans l'or et le maroquin. S'ils consentent à accueillir des exemplaires malmenés par de négligents possesseurs, c'est dans l'espoir de rencontrer d'autres dont les feuillets soigneusement triés feront un livre sans reproche de plusieurs exemplaires maculés. Mais à cela ne s'arrête pas la fantaisie de ces chercheurs passionnés. Chacun des ailés de cette nombreuse famille a son caprice de prédilection. Les uns aiment par-dessus tout les incunables, ces beaux et rudes produits de l'enfance de l'imprimerie, avec leurs brillantes majuscules peintes et leurs types gothiques vigoureux de ton et de fermeté. Les autres préfèrent les chefs-d'œuvre sortis des presses infatigables du XVIe siècle, les Aldes, les Estiennes, les Vascosans, les Galliots du Pré, les Collines, les Angelieu, les Plantins. Ceux-ci recherchent avec avidité les Elzevir, les Blaue, les Janson, les Wolfgang et toutes ces gracieuses productions de l'art typographique nées au XVIIe siècle en Hollande et sur les bords du Rhin. Ceux-là s'attachent aux élégantes éditions plus modernes des Coustelier, des Bodoni, des Chapelet, des Didot. D'autres portent leur attention sur la reliure, véritable cuirasse chargée de protéger l'intelligence que renferment ces feuillets fragiles. Le veau antique à dessin estampé, les panneaux de bois recouverts de peau de truie au grain robuste, les maroquins de toutes nuances, si doux à l'œil et au toucher, sont appréciés par autant d'amateurs différents. À tous ces attraits déjà suffisamment variés pour défrayer bien des curiosités de bon goût, viennent s'ajouter les livres à gravure et à vignettes, autres veines opulentes à fouiller depuis les illustrations naïves des premiers temps de l'imprimerie, les mordantes caricatures d'Holbein, les vigoureuses compositions des artistes allemands de l'école d'Albert Dürer et de Lucas Granach, les délicates vignettes de Petit Bernard et de Jean Cousin, jusqu'aux sensuelles et spirituelles gravures du siècle dernier. Enfin, il y a les amateurs de manuscrits. Ceux-là veulent contempler des témoins plus anciens, plus vivants, plus patiemment élaborés du travail de la pensée à sa source directe. Ces feuillets à écriture bizarre, que les moines ornés d'or, de pourpre et d'outre-mer, sont pour eux les flux vraiment saintes des générations passées. Pour compléter cette énumération rapide, il faut citer encore le groupe des mutilateurs de livres, qui font le désespoir des véritables bibliophiles. Nous désignons ainsi ceux qui collectionnent les marques d'éditeurs, les titres, les frontispices, les lettres à vignettes, les sujets intercalés dans le texte, les majuscules peintes. Ces profanateurs amateurs ne craignent pas de mutiler de nobles volumes et de leur arracher leurs plus précieux ornements. C'est là un zèle impie dont j'ai particulièrement connu des sectateurs effrontés. Ces vandales ne rougissaient pas de lacérer des romans de chevalerie et de merveilleux incunables pour remplir leurs albums de ces récoltes sacrilèges. Cependant, afin de ne pas laisser le lecteur sous l'impression de cette destruction sauvage, ajoutons que cette coupable manie disparaît avec celle des albums. Si les ciseaux de quelques marchands d'images ou de puérils découpeurs d'estampes attaquent encore nos vieux trésors, ils ne le font plus guère que sur les exemplaires dépareillés ou sur les in-folios de théologie et de métaphysique latin. Ici vient se placer tout naturellement la grave question de la préférence accordée par les bibliophiles à telles ou telles éditions. Le choix consciencieux des livres, si bien légitimé par les besoins de l'érudit et les délicatesses de l'homme de goût, a souvent excité le sourire du demi-lettré et de l'ignorant. À leurs yeux, le titre d'un volume suffit à en prouver le contenu, quelle que soit la date et le nom de l'éditeur. Rechercher plus spécialement certains exemplaires leur paraît une manie. Il ne faut pas une attention bien soutenue, cependant, pour arriver à se rendre compte de cette préférence qui constitue la préoccupation majeure, le véritable cachet du bibliophile. Il y a d'abord les exigences artistiques, le goût de la forme. Est-il besoin d'en donner des détails? Préférer le beau quand on a le choix est une chose bien naturelle. Qui pourrait hésiter entre les impurs stéréotypes des collèges avec leurs papiers spongieux, leurs lignes immaculées et compactes, et les magnifiques éditions classiques des Aldes, des Estienne, des Morel, des Palantin et des Didot? Nous citons à dessein ces deux extrêmes de la vaste série des livres. La distance typographique qui les sépare est de nature à frapper tous les yeux, elle dispose l'esprit à mieux saisir les nuances intermédiaires. Pense-t-on maintenant qu'il y ait moins de choix entre les élégants produits des presses de Venise et de la Hollande et les ignobles hindous français au format rachitique dont le règne a duré près de 2 siècles et qui attristent encore les quais par la nuance funèbre de leurs robes en veau bistré? Un de nos illustres contemporains, grand ami des livres, se plaît, en montrant sa riche bibliothèque, a déclaré qu'il étudie avec plus de facilité dans un bel exemplaire et qu'il choisit toujours pour cela celui dont le papier est le plus ferme au toucher et la justification typographique la plus agréable à l'œil. Nous sommes tout à fait de son avis. Il sort d'un beau livre une sérénité calme, une heureuse harmonie qui rendent attrayants les plus graves travaux. En vérité, c'est une chose très désirable dans un livre que la bonne condition. Elle annonce presque toujours d'ailleurs la bonne édition, dont la recherche indique un nouveau genre de préférence plus sérieuse que les préférences artistiques. L'attention se porte ici directement sur la pensée de l'auteur. L'homme instruit et sans préjugés la veut complète et pure. Et les éditions expurgées, retouchées, accommodées au goût du temps, avec remaniement de style et d'orthographe, lui sont particulièrement désagréables. Il permet à l'auteur seul de revoir son œuvre. C'est le jet sans mélange, la lancée originale qu'il lui faut. Il veut, et il a raison, embrasser le rayonnement intellectuel tel qu'il a jailli du cerveau du penseur. Celui qui essaierait de refranciser le Pantagruel commettrait une monstruosité. La langue châtiée et raisonnable de notre époque ne saurait supporter la forme grasse et extra-libertine de cette satire universelle, dont le style mieux encore que l'esprit convenait aux oreilles érotiques des contemporains des Valois. Et pourtant, cette étrange métamorphose a été opérée au commencement du dernier siècle. Quelques années auparavant, un arrangeur aussi ingénu s'était exprimé sur l'Heptaméron. Non content d'en restaurer le style à sa façon, il crut augmenter l'attrait des contes de Marguerite de Navarre en les débarrassant des intermèdes si caractéristiques où les interlocuteurs commentent mutuellement leurs récits. Le même procédé a été mis en œuvre vers le même temps par les traducteurs de Boccace, dont le Décaméron fut mutilé tout aussi largement. Malheureusement, ce sont les éditions de ces contes ainsi châtrés que Romain de Hugues a illustrées de ses curieux dessins. Chacun connaît encore les singuliers travestissements imposés par Tressan à Floire et Blanche-Flore, à Jehan de Saint-Tré et à tant d'autres de nos vieux romans du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, grâce aux ailes que mettent nos éditeurs modernes à restituer les textes primitifs, ces mascarades de nos vieux chefs-d'œuvre n'abusent plus le goût public. Lorsque les mutilations dues à un excès de goût ou aux scrupules d'un faux zèle n'atteignent que certaines phrases, quand les corrections ne portent que sur quelques tournures, sur quelques expressions vieillies, la distinction entre les éditions diverses d'un même texte est moins facile à saisir. Elle demande toute la sagacité du bibliophile. En général, les éditions faites sous les yeux de l'auteur sont celles que l'on doit préférer. Elles semblent conserver les traces de la main du maître. La mise au jour de son œuvre, surveillée par lui-même, est un acte de notoriété authentique et irrécusable. Il y a cependant des exceptions à cette règle. L'auteur a pu réserver par prudence à compléter son travail après sa mort. En ce cas, les éditions posthumes dirigées par l'héritier de sa pensée sont les préférables. Ou bien l'opinion, les susceptibilités politiques ou religieuses l'auront contraint à retrancher de son livre déjà imprimé certaines allusions trop fortes, certains passages trop vifs. L'édition Princeps est alors la plus appréciée de l'érudit jusqu'à ce que les presses d'un pays libre aient reproduit la copie originale comme il est arrivé pour La Sagesse de Caron et L'Apologie pour Hérodote d'Henri d'Estienne. En général, il faut se défier des éditions postérieures imprimées dans les pays où fonctionnaient l'Inquisition et la censure. Les éditeurs d'Italie et d'Espagne surtout furent contraints à mutiler bien des livres. Ainsi, dès le milieu du XVIe siècle, le célèbre éditeur vénitien Francesco Sansovino avait dû expurger l'admirable histoire d'Italie de François Guicciardini. Trois passages très importants où il discute les droits de la papauté à la domination temporelle et la manière dont elle en use ont été supprimés par ordre supérieur. Le fameux fragment, surtout, où l'illustre historien donne de terribles renseignements sur la famille d'Alexandre VI, n'existe dans aucune des éditions du XVIe siècle. Souvent, le texte a été simplement nettoyé, comme dans le Comines, publié par Godefroy, qui s'est permis de changer les titres et le nombre des chapitres, et de replacer de temps en temps le mot inusité au lieu de l'expliquer par une note. Ce qui s'est fait également dans les éditions de l'Apologie pour les grands hommes soupçonnés de magie, de Naudet, qui sont postérieures à la petite édition de Paris de 1669, laquelle reproduit encore fidèlement celle de 1625. Sans doute, ces changements minimes n'altèrent pas le sens de la pensée, mais il lui en enlève cette fleur de personnalité, ce parfum originel que l'on aime retrouver dans les écrits des temps passés. Aux yeux du bibliophile, ce zèle maladroit est un manque de respect à la mémoire de nos vieux auteurs. Pour les œuvres écloses avant la découverte de l'imprimerie, la question change. Le choix des exemplaires dépend de la bonté du manuscrit dont l'éditeur a fait usage, et ce ne sont pas ordinairement les premières éditions qui l'emportent, sinon en rareté, du moins en fidélité. On se contentait jadis d'une seule copie d'un ouvrage qu'on livrait sans contrôle à l'impression. Souvent même, on faisait subir au manuscrit un remaniement plus ou moins considérable. Ainsi, le roman de La Rose a été restauré et fortement retouché par Villon, qui use à son tour ses poésies rhabillées par Clément Marot. Ainsi, l'histoire de Joinville s'est vue soumise à une sorte de traitement orthopédique par son premier éditeur, Antoine-Pierre de Rieux, qui en a capricieusement renversé l'ordre, changé la dédicace, tiraillé le style, retranchant et ajoutant à sa convenance, et s'acharnant surtout contre les gracieux détails de la vie privée et de Monseigneur Saint-Louis. Reste le chapitre des éditions plus ou moins correctes. La beauté de la forme n'annonce pas toujours la pureté du fond. Les éditions à la sphère, par exemple, malgré leur élégance, sont loin d'être irréprochables sur ce point. Ainsi, dans le Charron des Elzévirs de 1646, entre autres contresens, on est tout étonné de lire au chapitre 5 du livre 2 « Toutes les religions ont leurs commandements petits, faibles, etc. » Pour toutes ont leur commencement. Ce qui, dans un passage aussi essentiel, n'est pas tout à fait la même chose. Les Rabelais des mêmes éditeurs ne sont pas non plus sans tâche, et leur jolie réimpression des poètes italiens, que Sébastien Leclerc a orné de si belles eaux-fortes, donne souvent des entorses au sens littéral. Comment faire, cependant, pour résister à ces charmants bijoux de l'imprimerie ? Le seul remède est de leur faire adjoindre des exemplaires signés, Lamonouet, l'Anglais, Dufresnoy, le Duchat ou tout autre nom d'éditeur consciencieux qui garantissent l'intégrité littéraire d'une édition. On le voit, par cet aperçu trop rapide, la question du choix des livres est d'un intérêt bien légitime. Elle peut se résumer dans cette simple formule: n'accepter pour livres véritables que ceux dont on n'a ni raturé les lignes, ni sali les pages, ni détourné le sens, ni déchiré les feuillets. Nous avons à peine écorné dans ces quelques pages le vaste champ de la glorification des livres. Cependant, chacun des efforts de nos ancêtres pour échapper aux ténèbres de la longue nuit du Moyen-Âge est digne au plus haut degré d'occuper notre attention. Chacune des nobles préoccupations qui rattachent les penseurs modernes à la glorieuse série des activités intellectuelles du passé doit entrer dans le cadre intéressant de ce travail. Aussi comptons-nous bien reprendre un nouveau fragment de ces attrayantes études chaque fois que le temps aura rendu nécessaire une nouvelle livraison de l'annuaire du bibliophile en jetant une nouvelle gerbe de 12 mois à la rapide moisson des âges.